Savez-vous ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance? Vous savez bien sûr ce qu'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est ce coffre, qui était un coffre d'acacia recouvert d'or, que le peuple a promené avec lui tout le long de sa pérégrination dans le désert pour aller de l'Égypte dans la terre promise. Et cette Arche d'Alliance qui était mise dans le tabernacle, dans la tente de la rencontre, elle a ensuite été mise donc dans une tente également à Jérusalem, jusqu'à ce que Salomon construise un temple pour l'Éternel. Et à ce moment-là, on a mis cette Arche d'Alliance dans le Saint des Saints. Cette Arche d'Alliance, elle représentait très particulièrement la présence même de Dieu. C'était une sorte d'image de cette présence de Dieu qui accompagnait le peuple tout le temps. Et donc la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce que les Israélites avaient mis dans cette Arche d'Alliance, c'est-à-dire quelles sont les choses qui pour eux représentaient le mieux ce qu'était Dieu pour eux. Peut-être que vous avez une idée de ce qu'il y avait dedans, peut-être que vous ne savez pas tout, mais pour cela je vais donc vous lire quelques passages qui nous le disent. Tout d'abord, dans le livre de l'Exode, nous lirons au chapitre 16, à partir du verset 11. Un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament, nous trouverons un deuxième indice dans le livre des Nombres, au chapitre 17, à partir du verset 16. À ce moment-là, la communauté juive avait fait une révolution contre Moïse et surtout contre son frère Aaron, qui était le détenteur du pouvoir sacerdotal. En effet, Aaron était le chef de la tribu des Lévites, qui étaient normalement les prêtres pour Israël. Et le peuple a remis en cause cette prêtrise donc des Lévites, et voici ce qu'il va advenir, et voici comment l'Éternel va réagir à ces murmures des Israélites. Et puis enfin, la réponse explicite à ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et à son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint. Et là se trouvaient le chandelier, la table, les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'Arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et enfin les tables de la loi. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Qu'y avait-il donc dans cette Arche d'Alliance, dans ce symbole le plus sacré du peuple juif qui représentait Dieu lui-même? En général, tout le monde sait qu'il y avait dedans les tables de la loi. Les tables de la loi qui avaient été gravées lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, ces tables qui représentaient la parole même de Dieu. Que les tables de la loi soient dans l'Arche d'Alliance, ça fait évidemment grand plaisir aux protestants. En effet, ça, c'est un langage que nous savons entendre. La présence de Dieu, elle est avant tout dans sa parole. La présence de Dieu, elle est avant tout dans ce que dit Dieu, dans sa parole, dans sa loi, dans sa Bible. Et en effet, c'est bien ce qu'enseigne le protestantisme. La présence réelle, elle est dans l'écriture qui est lue ou écoutée, proclamée. Et c'est ce qui fait également que les protestants peuvent si bien se passer de services de culte, finalement, ils peuvent vivre leur foi dans leur coin, puisqu'il suffit d'avoir une Bible et de la lire pour avoir la plénitude de la présence de Dieu. Donc cela est très bien. Simplement, il n'y avait pas que les tables de la loi dans l'Arche d'Alliance. Il y avait aussi deux autres objets infiniment plus énigmatiques. Il y avait donc de la manne et également le bâton d'Aaron. Le fait qu'il y ait deux autres objets nous montre que la parole de Dieu, c'est bien, mais qu'il faut aussi un petit peu autre chose. Peut-être que l'on pourrait dire déjà que la parole de Dieu est une bonne chose, mais qu'il faut en plus la manne et le bâton, comme si la manne était cette nourriture que Dieu a donnée à son peuple dans le désert, et que le bâton, c'était le bâton d'Aaron, et la tradition dit que ce bâton d'Aaron était aussi le bâton de Moïse. Vous savez, ce bâton par lequel il a opéré tant de prodiges, le bâton avec lequel il a séparé la mer morte, avec lequel la mer rouge, pardon, avec lequel il a fait jaillir des sources d'eau dans le désert. Peut-être en effet est-elle ainsi, cette parole, cette présence de Dieu. Elle est non seulement une parole qui nous est donnée, et c'est avant tout dans cette parole que nous avons sa présence, mais la présence de Dieu, c'est aussi une manne, c'est-à-dire aussi une nourriture, c'est aussi une aide, c'est une aide intérieure, un pain vivant qui nous aide à avancer sur notre route. Ce pain que nous réclamons chaque jour dans le Notre Père, en disant « Donne-nous notre pain quotidien », ce pain spirituel. Et puis le bâton, c'est peut-être aussi cet autre mode de la présence de Dieu, ce mode cette fois un peu plus extérieur, je dirais, ce Dieu qui agit pour nous libérer. Ce Dieu qui agit et qui finalement nous permet d'être en marche. Mais néanmoins, je pense que l'on peut aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin parce que la manne, oui, c'est une forme de nourriture, mais c'est beaucoup plus que cela. Un jour, des enfants de l'école biblique m'ont demandé pourquoi cette nourriture que le peuple avait reçue dans le désert s'appelait de la manne. Et la réponse, je la connaissais, bien que je ne me sois jamais posé la question. La réponse, je leur ai dit, ben écoutez, c'est simple, c'est parce que quand le peuple a vu arriver cette nourriture tombant du ciel, ils ne savaient pas ce que c'est. Et donc, ils ont dit en hébreu, qu'est-ce que c'est? Et en hébreu, qu'est-ce que c'est? Ça se dit manhu. Et comme ils n'ont jamais pu répondre à cette question, ils ont appelé ça du man, c'est-à-dire du qu'est-ce que c'est. Et du coup, ça m'a assez intéressé. Parce qu'en effet, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nourrit son peuple dans le désert avec du qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire avec une question ou avec des questions. Peut-être d'ailleurs avons-nous là justement quelque chose d'intéressant qui nous permet de voir de quelle manière cette parole de Dieu, cette écriture ou cette Bible, comment elle peut devenir pour nous présence de Dieu. Peut-être que pour que cette Bible fonctionne, il faut justement la faire voisiner avec du qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire avec des questions. Oui, c'est ça, la présence de Dieu. C'est une Bible et des questions. Alors, soit c'est pour dire que la Bible, c'est un texte qui nous pose des questions, et ça me plaît assez. La Bible n'est pas un livre nécessairement auquel il faut obéir sans rien dire, obéir bêtement en disant « Ah ben oui, Dieu l'a dit, donc je le fais ». Peut-être que la Bible, justement, est un livre qui nous stimule, qui nous provoque et qui nous fait avancer parce qu'il nous pose des questions, parce qu'elle nous fait réfléchir. Il est assez paradoxal de voir ce Dieu qui, justement, nourrit son peuple dans tout son cheminement au désert. Dieu nourrit son peuple avec des questions. Je crois en effet que les questions sont ce qu'il y a de plus nourrissant pour nous-mêmes, parce que c'est ce qui nous met en marche. Ou alors peut-être que l'on peut dire à l'inverse que la présence de Dieu, c'est une Bible qui est là, mais qui justement est en quelque sorte dérangée par des questions. Mais là, les questions ne sont pas forcément les questions que nous pose la Bible, ce peut être aussi les questions que nous nous posons. Questions qui peut-être n'ont pas toujours de réponse d'ailleurs, comme les Israélites n'ont jamais su ce que c'était que cette manne. Ils ont appelé ça du « qu'est-ce que c'est ?», comme on dirait en français un « vasistas », c'est-à-dire un « vasistas », c'est-à-dire une question qui est devenue un mot commun. Peut-être alors est-ce le fait de poser des questions sur la Bible, et peut-être est-ce justement un droit qui nous est donné, de dire « oui, il y a une écriture, mais on a le droit, voire le devoir, de se poser des questions sur cette écriture. Ce n'est pas un texte à admettre béatement, c'est un texte sur lequel on peut réagir, sur lequel on doit réagir, et on a le droit, je crois, de remettre même en question, justement, ce vieux texte. Et c'est lorsque l'on martyrise cette écriture avec nos questions que peut-être pourra surgir la présence de Dieu. Le troisième objet est plus complexe. Le troisième objet est plus complexe, c'est le bâton d'Aaron, vous disais-je. Vous avez entendu dans ce texte de l'Exode, des Nombres, pardon, que le bâton d'Aaron représentait le pouvoir, la légitimité du pouvoir d'Aaron, et que Aaron étant le chef de la tribu des Lévites, ce qui est en question, c'est la légitimité de l'existence du sacerdoce des Lévites et du pouvoir de prêtre d'Aaron, ces gens-là étant chargés du service du culte. Alors le bâton d'Aaron donc représente cela. Il représente le fait qu'il y ait une institution qui mette les hommes en relation avec Dieu. Et le peuple a remis cela en question, en disant « il n'y a pas de raison, on est capable de se débrouiller tout seul, nous, par rapport à Dieu. Pourquoi tous ces prêtres et tous ces gens qu'il faut nourrir et qui ne servent à rien, finalement ?» Et Dieu, dans le livre des Nombres, a voulu légitimer ce pouvoir sacerdotal. Là, c'est peut-être quelque chose qu'il est bon de dire un petit peu aux protestants. C'est que l'on trouve que oui, effectivement, la première chose de la présence de Dieu, c'est la parole. Il y a bien sûr la question que nous posons dessus, mais il y a aussi l'importance de ce que nous appellerions aujourd'hui l'Église. L'importance d'une organisation sacerdotale. L'importance pour nous aujourd'hui d'une paroisse, l'importance du temple, l'importance du culte, l'importance des sacrements, l'importance du fait qu'il y ait des pasteurs, tout cela contribue à rendre Dieu présent. Oui, la Bible et les questions ne suffisent pas, il faut aussi qu'il y ait cette importance de l'Église. Alors là, les protestants sont un peu moins contents, mais pourtant, même Calvin, qui était pourtant très, très, très radical dans les questions d'ecclésiologie, n'a jamais nier toute Église. Calvin a toujours considéré qu'il était très important qu'il y ait une Église, qu'il y ait une organisation. Calvin n'a pas dit que la pratique religieuse ne comptait pas et qu'elle n'était rien. On dit que Calvin résumait, je dirais, le bon fonctionnement des choses par cette formule, en disant « l'idéal, c'est que la parole de Dieu soit pleinement prêchée, pleinement PLAI, c'est-à-dire prêchée en la mettant à plat », que la parole de Dieu soit pleinement prêchée et que les sacrements soient droitement administrés. Eh bien, nous avons là les trois points de l'Arche d'Alliance. La parole de Dieu, pleinement prêchée, et ça vous questionne, et on se pose des questions sur la parole, et les sacrements droitement administrés, c'est le bâton d'Aaron. Alors néanmoins, je crois quand même que les protestants ont raison, parce que dans ces trois choses, la parole, la question et l'Église, la question c'est de savoir ce qui prédomine. Les protestants ont un petit peu tendance à mettre en premier la parole et à mettre les deux autres éléments en second. Donc la parole de Dieu est première, viennent ensuite l'Église et la prédication, l'Église et le questionnement, la méditation, la réflexion, comme si c'était deux éléments au service de la parole. D'autres églises plus liturgiques ont un peu tendance à faire passer le bâton d'Aaron en premier. L'important, c'est l'Église, et l'Église sert la parole et permet éventuellement de poser des questions, mais pas trop. Et puis d'autres, enfin, considèrent que l'important, c'est de se poser des questions, de réfléchir, et après tout, peu importe que l'on réfléchisse sur Platon, sur les Upanishads, sur la Bible, et peu importe qu'on soit dans une église ou dans l'autre. Bon, eh bien, là, la Bible nous donne deux solutions possibles. Parce que, en fait, on ne sait pas très bien comment ça se passait. Certains passages de la Bible, comme l'Épître aux Hébreux, tendent à faire penser que les trois objets étaient à égalité dans l'Arche d'Alliance. Peut-être est-ce cela l'équilibre idéal, c'est qu'effectivement, on met à égalité l'importance de la Bible, de la communauté, de la Bible, donc de l'Église, et du questionnement. De la Bible, d'une pratique, et d'un questionnement, d'une réflexion personnelle. Peut-être qu'il faut être justement équilibré sur les trois, et que nous devrions nous rééquilibrer. Et il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui veulent faire croire qu'au contraire, seules les tables de la loi étaient dans l'Arche d'Alliance, et que le bâton d'Aaron et que la manne étaient dans la tente, mais pas dans l'arche. C'est-à-dire qu'ils étaient, d'une certaine façon, au second rang. Ça, c'est à chacun de voir. Néanmoins, on peut enfin aller encore un petit peu plus loin dans ce que nous apprend cette arche d'alliance. Parce que je vous ai dit qu'un peu plus tard, après la tente, Salomon a construit un temple en dur avec le Saint des Saints, et que c'est dans ce temple que devait se trouver l'arche avec les trois objets. Or, la culture chrétienne nous apprend que le temple du Seigneur, c'est nous. C'est-à-dire que chaque croyant est le temple du Seigneur. Peut-être alors pouvons-nous décliner ce que je viens de dire en disant que c'est en nous-mêmes que doivent se trouver ces trois objets essentiels. Et c'est seulement à cette condition-là que nous serons dans la présence de Dieu. Le fait qu'il y ait en nous-mêmes l'Arche d'Alliance, qu'en nous-mêmes il y ait les tables de la loi, ça, c'est une affaire connue. Oui, effectivement, il y a cette parole, effectivement, de la Bible, que la parole de Dieu habite pleinement en vous. C'est ça. Nous devons intégrer cette parole de la Bible, la mettre en nous-mêmes, elle doit nous habiter. Elle doit être en nous-mêmes, c'est-à-dire que nous devons la manger, nous devons l'ingurgiter, la mettre en nous, la dévorer. C'est tout ce thème, bien sûr, du pain de vie dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, quand Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui me mange vivra éternellement », ou encore simplement le sens de la Sainte Cène. Quand Jésus dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps », oui, nous devons manger la parole et manger le Christ, donc, qui est la parole incarnée, c'est-à-dire non pas assister à un sacrement d'Église, mais réellement, dans notre vie spirituelle, mettre cette parole au plus profond de nous-mêmes pour que cette loi soit non pas dans une boîte en bois, mais qu'elle soit gravée dans nos cœurs. La manne, que la manne soit en nous, alors là, si la manne, c'est effectivement une question, alors il y a deux façons de le comprendre. Soit de dire que nous devons avaler les questions, c'est-à-dire nous remettre nous-mêmes en question, nous remettre en mouvement. Il ne faut pas se contenter, je dirais, de ce que l'on croit savoir, ne pas se contenter de sa foi, ne pas se contenter non plus de questionnements intellectuels, de savoir si la Trinité est vraie ou non et si le filioque se justifie. Mais il faut que ces questions deviennent des questions personnelles et intérieures. Il faut qu'il y ait une vraie remise en cause personnelle pour que Dieu puisse être efficace. Ou alors, cette question, une fois de plus, comme tout à l'heure, elle peut être prise dans un sens ou dans l'autre. Et peut-être que la question peut-être que nous soyons nous-mêmes une question pour le monde. Peut-être justement est-ce cela le témoignage. Vous savez, on parlait de la tente du témoignage. Et si cette tente du témoignage, c'est nous-mêmes, comment pouvons-nous témoigner dans ce monde? Peut-être justement la meilleure manière de témoigner dans ce monde, c'est d'être pour le monde une question. Et je pense que là, effectivement, nous allons, si vous voulez, tout à fait à l'encontre du matraquage sectaire de ceux qui veulent a priori imposer une vérité au monde. Je ne crois pas que l'on témoigne dans le monde de notre foi en essayant d'imposer ou de forcer une sorte de vérité ou de discours tout près sur ce que l'on croit et sur ce que l'on pense. Certainement que le meilleur témoignage que l'on peut faire dans le monde, c'est d'être pour le monde ou pour ceux qui regardent vivre le chrétien, que le chrétien soit une question, une interrogation pour le monde. Et c'est alors que son témoignage pourra être, je crois, positif en provoquant cet étonnement. Et puis enfin, que le chrétien doive, ingurgiter le bâton d'Aaron. Alors là, enfin, ce bâton d'Aaron qui tout à l'heure troublait un petit peu les protestants, tout à coup, il redevient un bâton très sympathique pour la pensée protestante. Parce qu'en effet, le bâton d'Aaron, représentant le pouvoir du prêtre et du sacerdoce, alors oui, bien sûr, ce pouvoir sacerdotal, chaque fidèle doit l'avoir en lui-même et au plus profond de lui-même. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est à chacun d'assumer, de remplir ce rôle d'être prêtre pour lui-même, c'est-à-dire de gérer directement sa relation à Dieu. Oui, le bâton d'Aaron, il est en moi, et ce pouvoir sacerdotal, il est en moi. Et c'est donc en moi et dans ma propre relation à Dieu que je peux gérer mon contact avec Dieu, que je peux gérer la présence de Dieu et aussi le fait qu'il m'aime et qu'il me pardonne. Ou alors aussi, peut-être, être prêtre pour les autres, parce que on n'est pas chrétien seulement pour soi. Alors là, si moi-même je suis appelé à incarner ce bâton d'Aaron, je suis prêtre pour moi, mais aussi pour les autres, et j'ai donc une responsabilité de mettre les autres en relation avec Dieu. Et ce témoignage, eh bien, il se fera aussi par le fait que ce bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était également le bâton de Moïse, ce bâton qui a servi à faire tant de signes de la présence de Dieu. Et alors nous pouvons être aussi le témoignage par la démonstration de ce que Dieu opère en nous, de faire cette espèce d'étonnement que le chrétien est capable de traverser la mer Rouge alors que c'était impossible, et qu'il est capable de trouver des sources dans le désert grâce à sa relation à Dieu. Ainsi que le dit l'évangile de Matthieu, il dit faites tout pour la gloire de Dieu, etc., afin que les autres voient vos œuvres bonnes et qu'ils louent ainsi Dieu par là. Alors voyez-vous, j'aime bien cette manne et ce bâton, parce que je crois qu'ils explicitent merveilleusement la manière avec laquelle la parole de Dieu peut être présente en nous pour nous conduire à la terre promise, c'est-à-dire dans notre cheminement, comment cette présence de Dieu peut nous aider à avancer dans ce désert, plus ou moins bon, comme il est, de notre vie, mais dont le but est d'aller vers la terre promise, c'est-à-dire vers la vie, vers le bonheur. C'est que grâce à la manne, à la parole de Dieu, bien sûr, qui est première, mais grâce à la manne, eh bien, pour moi, j'ai des questions et j'ai des réflexions. Et pour les autres, je peux porter témoignage. Et grâce au bâton, pour moi, j'ai l'aide de l'Église. Et pour les autres, je peux montrer ce que Dieu accomplit en moi et ainsi mettre également en relation. Et c'est avec tout cela, la parole, je dirais, ses aides, ses acolytes, que je peux trouver cette présence extraordinaire, qui est cette présence de Dieu qui peut m'accompagner partout, comme elle a accompagné le peuple dans sa marche. Pour cela, bien sûr, il faut prendre garde d'abord de ne pas oublier cette arche d'alliance dans un coin de notre vie. Et comme le peuple hébreu, il faut avoir cette espèce de fidélité, de constance, de toujours la trimballer avec soi, de toujours garder dans tous ses cheminements, dans toutes ses pérégrinations, et même dans les moments les plus difficiles, de ne jamais oublier cette arche d'alliance, cette présence extraordinaire de Dieu qui nous est donnée par sa parole, par sa manne et par son bâton. Et quand on transporte avec soi cette présence de Dieu, alors on peut tout franchir. Alors on peut trouver dans les déserts toutes les sources qui existent. Et alors nous sommes en route, avec Dieu et avec son aide et sa présence, vers la terre promise, c'est-à-dire vers la joie et vers la vie. Amen.